Virtual Africa. New generation. Bonjour, de retour donc sur Afrique virtuelle où je me trouve aujourd'hui en conversation avec Marie-Cécile Zinsou. Marie-Cécile, donc dans le précédent épisode, on était en train de s'entretenir du coup sur le rapport qui existe entre les arts visuels et les arts vivants. Et l'une de mes questions est de savoir donc quel est le contexte des arts de la scène au Bénin.
Je trouve qu'il y a une présence très forte des musiciens, des danseurs, des acteurs, peut-être plus forte. Il y a plus de possibilités de les voir, il y a plus de possibilités de rencontres avec les créateurs et de spectacles, ça, qu'avec les plasticiens, où justement, il y a pas de musée d'art contemporain au Bénin à part le nôtre. Et donc, du coup, non, je trouve qu'au contraire, au Bénin, les plasticiens sont peut-être les moins bien servis, en tout cas par les infrastructures nationales, ça c'est clair. Il n'y a pas tellement d'infrastructures nationales dédiées aux artistes plasticiens contemporains. Mais par contre, on est très souvent confrontés aux danseurs, on peut aller au spectacle. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'initiatives privées, il y a beaucoup de lieux qui accueillent des musiciens. Donc, on est beaucoup plus axé sur le spectacle vivant. Il y a un conservatoire national des danses traditionnelles qui est tout à fait important. Voilà, donc en fait, on a quand même une grosse présence de la danse, mais c'est aussi historique parce que voilà, dans le royaume du Dahomey, la danse est un des éléments absolument majeurs de toutes les manifestations royales. Donc forcément, c'est quelque chose qui reste très ancré aujourd'hui et qui explique comment on peut garder ce conservatoire de la danse où on a des danses de tout le pays, de tous les royaumes. Et donc je trouve que pour les plasticiens c'est peut-être un petit peu plus difficile parce qu'il n'y a pas de lieu d'exposition, il en manque, alors que voilà, des scènes elles se créent un peu partout avec les moyens du bord, mais elles se créent.
D'accord. Existe-t-il des pratiques qui combinent art et science ou art et technologie au Bénin? Si oui, quelles sont celles que vous auriez identifiées?
Alors aujourd'hui c'est au Bénin, c'est pas la spécialité, il y a des artistes de la diaspora qui s'y intéressent. Il y a des artistes de la diaspora qui s'y intéressent. Je pense notamment au travail d'Emone Medeiros, qui, dans ses tentures appliquées, qui s'inspire des appliquées traditionnelles du royaume du Dahomey, avec des formes extrêmement contemporaines et très modernes. Ces tapisseries sont truffées de puces NFC et de moyens de découvrir une œuvre dans l'œuvre. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup sur les questions des nouvelles technologies. Mais j'ai envie de dire, dans notre collection, c'est l'un des seuls artistes qui s'intéresse à ça et c'est pas encore une pratique très développée. Mais c'est là où on voit qu'il y a un manque de structure pour les artistes contemporains, d'expression et qu'on manque un peu de. Il y a pas tellement d'école de formation, il y a pas d'école de beaux-arts au Bénin. Il manque toutes les structures nationales qui sont censées accompagner des jeunes artistes et dans leur développement. Parce qu'en fait, ces choses-là, c'est plus facile à acquérir. Enfin, savoir que ça existe et acquérir des compétences quand on a les moyens, et on manque terriblement de moyens.
Quel est le statut des sciences et des technologies, je dirais, peut-être
Alors ça, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. J'avoue que je ne vais pas pouvoir vous donner un avis constructif et intéressant.
Est-ce que vous vous y intéressez? Est-ce qu'il y aurait peut-être est-ce que vous seriez intéressé à la Fondation d'exposer des artistes qui travaillent avec ces matériaux-là?
Nous, on a un problème. Tout bête, nous, on est toujours très ouverts à toutes les nouvelles possibilités. Et puis, en fait, on ne peut pas choisir. On ne choisit jamais les artistes sur leur médium ou on choisit les artistes sur leurs propos et sur la qualité de l'œuvre. Mais après, on a toujours un souci. Par exemple, on présente très peu de vidéos. Les gens se demandent toujours pourquoi on présente très peu de vidéos. Mais alors ça, c'est lié complètement à des contingences qui paraissent absurdes au XXIe siècle, mais qui sont réelles. C'est que l'électricité n'est pas stable. L'électricité n'est pas stable. Le matériel de projection est un matériel très fragile et très cher. Et qu'en fait, à chaque fois qu'on essaye de présenter la vidéo, on se retrouve avec des contraintes absolument terribles, notamment à cause des coupures permanentes. Et le fait que l'énergie, bon, certes, est la plus chère du monde, ce qui... déjà n'est pas très simple quand on travaille dans un musée où on a besoin d'énergie pour protéger les œuvres, les conserver, les exposer, pour accueillir le public dans de bonnes conditions. Mais en plus, vous voyez, on est très limité à cause de ces questions d'électricité qui sont un véritable frein à la monstration de plein de types d'œuvres, en fait. Donc voilà, ça c'est typiquement une des choses dont on n'a pas forcément conscience, et dès qu'on arrive au Bénin, on comprend très vite.
Oui, non, je comprends le contexte local. Je pourrais peut-être témoigner de la même chose dans d'autres pays africains, au Cameroun par exemple. Mais est-ce que ça ne vous coupe pas d'une certaine partie de la création contemporaine?
Ah, mais écoutez, de toute façon, voilà, on n'a pas vocation à être exhaustif. Mais par exemple, on a été obligé de refuser. On a un des plus grands collectionneurs du monde qui nous a proposé de nous prêter toute sa collection vidéo et de la montrer dans une très grande exposition. Ça aurait été une des premières sur le continent. Et en fait, c'était impossible à faire. C'était impossible. D'accord. Vous voyez, le matériel étant tellement fragile, étant très peu disponible d'ailleurs, il faut tout faire venir. Ça coûte... En fait, les coûts de cette exposition devenaient complètement prohibitifs et devenaient incroyablement complexes pour quelque chose qui vous aurait pris 5 minutes à monter à Paris ou à Londres, ou même au Maroc, par exemple. Là, tout à coup, au Bénin, ça devenait un cauchemar total. Et donc, du coup, on a été obligé de refuser cette possibilité, ce qui est vraiment très dommage pour le public. On a été obligé de refuser cette possibilité parce qu'on ne peut pas faire une exposition avec 40 projecteurs. C'est impossible.
Alors du coup, je vais encore poser une autre question un petit peu sensible. je crois savoir que l'exposition actuelle de la Fondation porte sur l'histoire et l'usage du wax, qui est donc porté d'ailleurs par des millions de femmes en Afrique et ailleurs. Mais je me disais, en parcourant votre site, parce qu'évidemment, moi, je n'ai pas eu l'occasion de me rendre sur place, je n'ai pu même documenter qu'à partir des informations disponibles sur le site. Mais donc, je me disais que de Samuel Fosso à Georges Lilanga ou à Romuald Azoumé sont des artistes importants et reconnus et remarquables. Là n'est pas mon propos. Je m'aperçois juste simplement que la liste des artistes présents comporte relativement peu de femmes. Donc, je voulais savoir si vous avez eu dans le passé une ou plusieurs expositions consacrées à des femmes artistes.
Oui, mais alors du coup, je n'ai pas compris le rapport avec l'exposition sur le pagne.
Le pagne, c'est une manière pour moi, je vais y revenir plus tard, mais c'était une manière pour moi d'introduire un peu le thème sur la féminité. Quoi.
Parce que dans l'exposition sur le pagne, c'est une exposition sur les histoires du pagne, en fait. Pas l'histoire du pagne, mais les histoires du pagne et comment les nanas Benz au Togo ont créé les légendes liées à un tissu qui au départ est hollandais. Et du coup, on a mis quelques œuvres de la collection pour illustrer le propos. Et donc, effectivement, vous avez toutes les œuvres de la collection qui utilisent le pagne à un moment ou à un autre ou qui présentent des thèmes similaires, par exemple Camara. Oui.
Non, je crois même savoir dans le descriptif que le pagne, je ne sais pas si j'ai mal interprété, mais il vous a été fourni peut-être par des femmes du marché local ou des...
Oui, tout à fait. Oui, alors ça, pour le coup, c'est une exposition qui est un hommage aux Nana Benz togolaises et béninoises très prononcées et qui raconte bien leur rôle et qui explique exactement en quoi les femmes ont créé des légendes autour de ces tissus et ont créé un nouveau langage quasiment grâce à ces tissus. Mais du coup, là, on l'a illustré avec des artistes très différents et il y a des femmes qui sont représentées. Est-ce qu'on a déjà eu une exposition majeure d'une artiste femme? On n'avait pas encore eu ça. En fait, au musée d'Ouida, dans la collection, L'autre jour, j'ai pris conscience dans une interview qu'on ne montrait pas, on n'avait pas une parité importante. Pourtant, on est considérés comme des champions de la parité à la Fondation. Enfin, des champions, non. D'ailleurs, en fait, on est dans une situation un peu terrible. C'est en fait, la direction est composée de 85% de femmes. Ce qui est légèrement problématique, parce qu'en fait, c'est dans l'autre sens qu'on a fait la chose. On est une équipe très, très féminine. Ça, c'est clair que ça a toujours beaucoup étonné les gens. Les gens finissent toujours par chercher un homme avec qui parler, ce qui, dans notre équipe, est vraiment très compliqué, parce qu'objectivement, de la directrice générale à la directrice des bibliothèques, à la directrice de la médiation, à la directrice... Voilà, en fait, on n'a que des directrices. Donc, voilà. Heureusement qu'on a quelques collaborateurs hommes pour maintenir un peu d'équilibre, mais voilà. Et du coup, l'autre jour, en parlant justement de la question homme-femme dans la Fondation, je me suis dit que si on était exemplaire dans nos bureaux, dans notre direction, dans notre façon d'organiser, on ne l'était pas dans la collection. Alors, évidemment, on travaillait sur différents thèmes et tout ça, mais on a réalisé qu'évidemment, si on ne faisait pas un peu attention, c'est toujours quand même les hommes qui sont mis en avant et de façon très majoritaire. Et donc là, j'ai décidé que c'était mon focus maintenant, c'est de m'assurer qu'on a bien une représentation des femmes artistes tout à fait importante dans la collection. Alors, il y a une chose particulière, c'est qu'il y a des femmes artistes absolument majeures qu'on ne pouvait déjà plus acquérir en 2005 parce qu'elles avaient déjà dépassé les possibilités d'acquisition en termes financiers. Parce qu'une des artistes les plus importantes du continent, Julie Méretu, ses tableaux aujourd'hui valent plusieurs millions de dollars et tout ça. Donc, elle, la raison pour laquelle on ne la présente pas, c'est que malheureusement, on n'a pas pu acheter ses œuvres, mais ça, c'est très dommage. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des autres. Et c'est qu'effectivement, quand vous travaillez sur les acquisitions et tout ça, vous avez tendance à acheter des œuvres, celles que vous voyez le plus souvent, celles qui sont plus accessibles, et c'est jamais les œuvres des femmes. Et donc, du coup, là, dans nos dernières acquisitions, on a vraiment mis l'accent là-dessus. Et on a vraiment cherché qui représentait, qui rentrait le mieux dans la collection, qui était le plus juste. Et donc, dans la dernière exposition, vous avez beaucoup de femmes au musée de Ouida, ça c'est vraiment très important. Et je pense qu'on va consacrer une exposition aux femmes du continent, ne serait-ce que parce que notre public est très jeune et notre public a besoin de savoir qu'en fait, les femmes sont des créatrices au même titre que les hommes. Oui. Et je pense que c'est très important quand on parle à des jeunes gens de parler de ça. Et donc, du coup, là, on a acquis beaucoup d'œuvres d'artistes femmes, que ce soit Lynn Dissel en Afrique du Sud, ou Zanele Mouoli, que ce soit Nina Okoré, on est en train de travailler sur le sujet et d'essayer de résoudre ça.
D'accord, merci. Du coup, vous venez d'en témoigner, on sait qu'il existe beaucoup de femmes dans le milieu de l'art, comme commissaire, critique, historienne.
Une des choses que j'essaie de rappeler aux gens toujours et que les gens ne voient pas, c'est l'importance des femmes sur les structures du continent. Parce qu'on parle de ce qu'on veut comme on veut, mais les structures du continent qui parlent d'art contemporain aujourd'hui sont tenues par des femmes. Et même... Même les femmes qui sont à l'étranger, vous prenez 154, c'est une femme marocaine formidable qui s'appelle Touré El Glaoui. À Paris, c'est Victoria Mann qui a créé AKA. À Dakar, c'est Koyo Kuo qui a créé Raw Material Company et qui vient de prendre la direction du Tsaïts Moka. Dans les galeries, c'est Cécile Fakouri et Kaline Chagouri qui sont respectivement à Abidjan et à Lagos. Vous avez Bissi Silva, la commissaire qui nous a malheureusement quitté cette année, mais qui était une femme exceptionnelle et qui a fait avancer les choses dans le domaine de l'art contemporain et dans les pratiques curatoriales de tout le continent, à Lagos. En fait, c'est les femmes qui font bouger les choses.
Oui.
Et ça, c'est très important de le rappeler systématiquement.
Comment expliquez-vous qu'elles restent moins connues que les hommes ? Est-ce que vous avez rencontré...
Oui, mais ça, je pense que c'est dans tous les domaines, en fait.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières, du coup, en tant que femme ?
J'ai même pas envie de parler de ça, parce que j'ai un cerveau qui est bien fait et qui oublie ce genre de choses. Ça m'énerve pendant 15 minutes, ça me met hors de moi. Pendant 2 jours, je pense qu'à ça en me disant c'est incroyable, c'est dingue, c'est fou. Et puis au bout d'une semaine, j'ai oublié et là, je saurais même plus vous dire. C'est vraiment. J'ai eu une ou deux personnes qui sont rentrées dans mon bureau, qui m'ont très gentiment demandé un café et qui m'ont dit qu'ils attendaient le président de la fondation. C'est des gens qui ont attendu assez longtemps, pour être tout à fait honnête. Et voilà. J'ai eu 2-3 réflexions un peu de mauvais goût, de gens qui pensaient que parce que j'étais une femme, ça allait être plus simple de m'imposer des choses. Ou voilà. Mais en vrai, ça m'a toujours assez peu intéressée. Et je vous dis, une très grande colère pendant 24 heures, 48 heures. Et puis après, mon cerveau zappe ça parce qu'il y a trop de choses intéressantes pour se concentrer là-dessus. Le mansplaining, maintenant que les gens en parlent, c'est plus facile de faire prendre conscience aux gens qui sont exactement en train de faire ça, enfin aux hommes qui sont exactement en train de vous mansplainer des choses. Donc, c'est aujourd'hui, comme c'est un sujet à la mode, c'est plus rigolo de voir la réaction des gens et les justifications.
C'est quoi la définition du mansplaining ?
C'est quand un homme vous explique quelque chose que vous savez déjà en insistant fortement en pensant qu'il va vous le faire comprendre mieux parce qu'il est un homme.
Merci. Bah, je ne connaissais pas ce mot-là et je suis un homme.
Les archives de présent.
Est-ce qu'il y a des thèmes relatifs à la féminité qui, dans le contexte africain, vous semblent importants à travailler quoi, dans le cadre d'exposition des œuvres?
En fait, il y a deux thèmes qui me paraissent très importants et je trouve qu'il ne faut pas les perdre parce que ça fait partie de notre culture. Enfin, il y en a plein, mais en l'occurrence, il y a deux thèmes qui sont liés aux femmes et qui sont importants. Je pense que le pagne en était un, parce que souvent, les gens font des grands débats sur le pagne, ce n'est pas africain, c'est hollandais, c'est tout ce qu'on veut. Mais en attendant, c'est des femmes, spécifiquement au Togo et au Bénin, qui ont créé ces légendes du pagne, qui ont créé un langage, qui ont créé une nouvelle forme d'expression et qui ont inventé quelque chose de totalement unique. Donc, je pense que ça mérite d'être souligné. C'est pour ça qu'on a fait une exposition sur le sujet. Et notre prochaine publication sera sur les tresses et les cheveux et la façon dont on s'exprime à travers ça et l'héritage culturel qui en découle. Parce que c'est quelque chose qu'on est en train de perdre. Et en fait, de la même manière que le pagne, les formes de coiffe ont toujours été une façon pour les femmes de s'exprimer. Et c'est un langage extrêmement complexe, extrêmement intéressant, et c'est quelque chose qu'on perd beaucoup aujourd'hui. Parce que peut-être que nos parents ne savaient pas, et du coup les enfants ne savent pas non plus, et donc on perd quelque chose qui en fait a été très longtemps absolument essentiel. C'est presque une carte d'identité, un statut social, il y a quelque chose à raconter autour de ça. Et donc là on est en train de travailler avec une chercheuse, une historienne de l'art sur le sujet, parce que ça nous semble tout à fait essentiel. Donc là, on est en pleine période d'entretien et de recherche pour proposer quelque chose, parce que ça fait partie de notre héritage, c'est des thèmes que les artistes explorent, et ça mérite d'être beaucoup plus développé.
J'allais vous demander quels sont vos projets actuels ou à venir. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter, mais...
Une dernière chose, oui, sur la façon dont, vous voyez, la façon dont l'Afrique se raconte. Oui. On ne peut pas dépendre que des autres pour nous raconter. Il faut qu'on se raconte nous-mêmes. C'est essentiel. Et donc, un de nos projets phares avec la Fondation, c'est vraiment les archives du présent. Et les archives du présent, c'est cette idée de dire, voilà, racontons-nous, expliquons ce qui se passe dans cette période très particulière. On connaît un développement absolument fulgurant et qui est à la fois risqué parce qu'on est, on est en perte d'histoire. Avec ce que je vous disais dans l'épisode précédent et cette colonisation qui nous a infériorisés pendant longtemps et cette absence d'accès à l'histoire qui a été aussi faite dans les programmes d'éducation nationale où on n'a pas eu, ils n'ont pas été revisités après la colonisation et donc on a perdu des traces de notre histoire, on ne sait pas trop où mettre, comment définir notre culture. Donc on est vraiment dans une phase où on doit se réapproprier absolument nos propres cultures, les comprendre, les connaître, quitte à décider de les poser sur le bord de la route et à avancer. Mais on a quelque chose à raconter de notre histoire, de notre avenir et de ce qui se passe en ce moment dans une période qui est absolument passionnante. Et on est sur un des continents, enfin probablement le continent le plus dynamique du monde. Et nous, aujourd'hui, on pense que c'est documenter ça qui apporte un vrai plus. Donc, on est en train de travailler sur les archives du présent et sur cette nouvelle collection qui va essayer de raconter différents aspects du continent ou différents artistes, faire des entretiens avec les artistes, entendre leur voix et ne pas se contenter juste d'articles de personnes qui viennent de l'extérieur et qui racontent, mais essayer de parler nous-mêmes de nous-mêmes.
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour avoir accepté de faire cet entretien avec moi et j'espère qu'on gardera le contact et que ça pourra donner lieu à de futures conversations.
Eh bien oui, écoutez, merci de m'avoir reçu et puis,
merci à vous.
Hâte d'écouter les autres épisodes.
Bah, merci beaucoup.
Merci.
L'Afrique à l'envers.
Upside down Africa.